Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du perpétuel secours, Notre-Dame de la sagesse, Notre-Dame de miséricorde.
Je suis plein d'allégresse dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a drapé dans un manteau de justice, comme l'époux qui se coiffe d'un diadème, comme la fiancée qui se pare de ses bijoux. Car de même que la terre fait éclore ses germes et qu'un jardin fait germer sa semence, ainsi le Seigneur Dieu fait germer la justice et la louange devant toutes les nations. À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je ne me tiendrai pas en repos, jusqu'à ce que sa justice jaillisse comme une clarté et son salut comme une torche allumée. Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. Alors on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur désignera. Tu seras une couronne de splendeur dans la main du Seigneur, un turban royal dans la maison de ton Dieu, dans la main de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé, et de la terre, de ta terre, on ne dira plus désolation, mais on t'appellera, mon plaisir est en elle, et ta terre épousée, car le Seigneur trouvera en toi son plaisir, et ta terre sera épousée. La première journée, nous nous sommes tournés vers le mystère de la parole qui vient vers nous, dès avant la fondation du monde, destinée à des noces avec mon Dieu. Cette parole vient à moi, cette parole qui me construit, qui me crée, qui me recrée, vient à moi, sautant par-dessus les collines et les montagnes, pour venir à travers le treillis me rejoindre, pour venir m'épouser. J'ai une réponse à donner. La réponse de la foi, je crois, j'adhère, la foi est une adhérence. Et là, le souffle de l'époux s'introduit dans l'épouse. C'est le souffle de l'esprit. Voilà ce qu'est être revêtu de justice, être rempli de l'Esprit Saint pour vivre les épousailles. Et aujourd'hui, c'est le fruit. Quel est le fruit de la parole entendue, de la parole écoutée, du péché confessé? C'est la rencontre, ce sont les épousailles, c'est l'époux et l'épouse qui se rencontrent. Et il y a un fruit, et le fruit, c'est la joie. Oh, pas n'importe quelle joie, c'est la joie spirituelle, la joie qui vient de la rencontre authentique entre Dieu et moi. Ai-je fait la vérité? Je peux encore la faire. Il y a peut-être des choses dans cette retraite qui continuent à me travailler. Tel morceau, telle chaîne qui encore a besoin d'être offerte à Dieu afin que je puisse entrer pleinement dans mon héritage nuptial et filial. La rencontre. Et voilà la joie imprenable dont je vous parlais la première journée. C'est cette joie qui manifeste que nous sommes véritablement disciples de Jésus. Certes, l'amour que nous avons les uns pour les autres, mais la joie d'abord de la rencontre de celui qui nous fait vivre de son amour. Sinon, comment voulons-nous vivre l'amour mutuel si nous n'avons pas fait cette rencontre? Je suis plein d'allégresse dans le Seigneur. Mon âme exulte. Oh mon Dieu, on entend Marie. Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur, en Dieu, mon Jésus. Sauveur veut dire Jésus. C'est la rencontre. Qu'est-ce qui fait que Marie exulte? C'est qu'elle a été rencontrée dans son sang, dans son sein, dans son être. Qu'il me soit fait selon ta parole. N'oubliez pas, nous l'avons médité ensemble. Nous nous sommes mis en présence de l'ange qui annonce à Marie, « Tu vas enfanter le Seigneur, c'est toi. » Cette allégresse qu'a vécue Marie, le Seigneur veut te la donner. « Car il m'a revêtu des vêtements du salut. » Vous savez que Jésus, Yehoshua, veut dire « Dieu sauve ». Les vêtements du salut, c'est être revêtu du Christ. Si nous avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu le Christ. Et vous savez que le vêtement dans la Bible, c'est la personnalité. Et le paradoxe, c'est plus je revêts le Christ, plus j'entre dans ma personnalité spirituelle, dans mon nom nouveau, dans mon unicité. Jésus s'approche. Il m'a revêtu des vêtements du salut. Plongé dans le sang précieux du Christ hier soir. Plongé dans le renouveau de la réconciliation. Je suis revêtu des vêtements du salut. Je suis revêtu de Yeshua. Et ce n'est pas simplement un revêtement extérieur. Comme je le disais, le vêtement, c'est la personnalité. Mais le vêtement, c'est entrer dans cette personnalité. Nous avons vu que la foi était une grâce nuptiale. Il vient en moi, je suis en lui, inhabitation mutuelle. Mon bien-aimé est à moi et je suis à mon bien-aimé. Nous l'avons lu hier dans le Cantique des Cantiques. Et c'est cette rencontre qui est source de joie. Et il est possible que tu aies maintenant à lutter contre le rabat-joie. Ça existe, lui. Il y en a un qui est jaloux, hein. Et je veux maintenant le nommer parce que nous sommes toujours dans le combat spirituel. Et ce matin, j'ai senti que dans la communauté, dans ceux qui suivaient l'enseignement, il y a pu avoir un ébranlement. Hein. Quand on se rapproche de l'époux, quand il s'approche de nous, il y en a un qui essaie de se mettre en travers. Diabolos, diable, diabolos, ça veut dire exactement se mettre en travers. La relation avec l'époux, c'est le dialogos. Jésus, c'est le verbe fait chair, le logos. Il y a une rencontre entre Dieu et moi qui va se faire, mais il y en a un autre, puis on a des connivences avec lui qui va se mettre en travers. Et là, il faut développer le discernement spirituel. Continuons à garder l'axe, parce qu'il y en a un qui veut nous faire empêcher d'entrer dans la joie. Il veut nous empêcher qu'on entre dans notre joie. Il est jaloux. Nous devons sereinement, réellement, voir qu'il y a un combat spirituel, mais l'époux s'en vient. Et la plupart d'entre vous, vous voulez vous ouvrir pleinement à cette rencontre, mais nous nommons celui qui va essayer, par des pensées, par toutes sortes de tournoiements, essayer de nous faire dévier. Nous sommes dans un combat spirituel, frères et sœurs. Soyez sobres, soyez vigilants, car votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, cherche et tournoie, cherchant qui dévorer. Il ne s'agit pas d'avoir peur du diable, il s'agit de savoir qu'il est là, qu'il veut se mettre en travers, mais nous, ça nous permet à la fois de discerner et de garder l'axe qui va nous permettre d'entrer dans la vraie joie. Et c'est ici qu'il faut parler de ce qu'on appelle le discernement des pensées. Qu'est-ce qui entre dans ton esprit? Qu'est-ce qui en sort? Qu'est-ce que tu laisses entrer en toi qui t'empêche de vivre la communion? Quelles sont les pensées avec lesquelles, tu les rencontres, tu les laisses habiter ton cœur, et peu à peu, tu en deviens captif. On devient captif des pensées qui nous entrent dans le cœur. Ça commence par un regard de travers, et ça finit peu à peu par de l'hostilité. Il faut être conscient de cela, frères et sœurs. Nous sommes dans un combat spirituel. Nous avons à vivre ce qu'on appelle le combat des pensées. Il y a des pensées qu'on peut laisser entrer, il y a d'autres pensées. L'Esprit Saint nous dit, laisse pas entrer sans. Et pour arriver ce soir dans cette joie, nous nous mettons en garde les uns et les autres. Il y en a un qui est là, cherchant, qui dévorait et rabatte ma joie, m'empêcher d'accueillir le vêtement du salut. Il existe. Ceux qui ne sont pas encore confessés, il y a encore possibilité de le faire. Des fois, il y a des roches qui restent en dedans, des pensées morbides. Encore aujourd'hui, j'ai entendu une chose là, qui me prouve encore une fois de cette action diabolique qui essaie précisément de diviser, de séparer, d'amener la confusion et la séparation. Médisance et calomnie, il reste. Simplement en être conscient. C'est une parenthèse liée à ce qu'on appelle le combat spirituel. Et là, nous nous remettons dans l'axe. L'époux s'en vient. Il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a drapé dans un manteau de justice. C'est ça la justice, c'est l'ajustement. Dieu m'ajuste à lui. Le Père m'envoie le juste, qui est le Fils, le Seigneur. Et ce Seigneur, agissant en moi, m'ajuste à l'Esprit, m'ajuste au Père. Je suis justifié en étant plongé dans le sang du Christ et en accueillant la joie qui est consécutive précisément à cet accueil. Et c'est la joie de la Vierge qui, toute joyeuse, va en hâte de Nazareth sur les montagnes d'Aïn Karim pour dire à Élisabeth la bonne nouvelle. Elle ne peut pas garder intérieurement cette joie, il faut qu'elle se transmette. Et Luc dit bien en hâte, en hâte. Et là, il y a une confirmation qu'elle est remplie de cette joie messianique. Parce que Jean-Baptiste, qui est dans le sein d'Élisabeth, danse. Il l'exulte dans le sein d'Élisabeth. Et si nous sommes habités par cette joie, si nous, le Seigneur habite en nous, de même, quand nous rencontrons nos frères et sœurs, ça va réveiller peut-être le fœtus mort ou à demi-mort qui est en eux. Le Christ qui est dans le caveau, qui voudrait renaître. C'est ça notre mission. Dire l'espérance parce que nous avons fait l'expérience de la rencontre avec le bien-aimé. Comme la fiancée qui se pare de ses bijoux. Une image, évidemment, qui est très nuptiale. Il veut me revêtir de bijoux, de richesses. Et les bijoux, évidemment, ce sont les dons du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'un chrétien sans les dons du Saint-Esprit? Crainte de Dieu. Une chaste crainte, pas une crainte servile. Une attention respectueuse à Dieu. Piété. Être porté précisément à l'adoration. Conseil, le discernement. Qu'est-ce que Dieu me dit dans tel événement? Seigneur, éclaire-moi. Force pour pratiquer la vertu, pour avancer dans le chemin de l'union à Dieu. Justice. Et nous avons aussi les trois dons qui sont très importants, science, intelligence et sagesse. Le sommet, c'est la sagesse. Vous savez que le don de sagesse, ça vient d'un mot sapientia, sapere. Sapere, ça veut dire goûter. Le don de sagesse qui nous est donné par l'Esprit Saint, c'est de goûter Dieu. Goûter Dieu. L'accueillir dans le fond de notre cœur et faire l'expérience spirituelle. On goûte Dieu. Nous pouvons goûter Dieu ensemble. Ce qui m'a frappé la première journée de notre retraite, c'est lorsqu'on a eu le moment d'action de grâce après la communion. J'ai été frappé ici. Moi, en tout cas, j'ai goûté une communion entre nous. C'est l'esprit de sagesse qui nous faisait goûter cette présence du Christ au milieu de nous. Et j'avais invoqué la présence de Marie pour que nous puissions justement goûter cette présence après avoir vécu l'Eucharistie. Et j'ai eu des échos que, précisément, ça a eu un impact, ça, dans les cœurs. Il faut le dire, ça, pour proclamer la gloire de Dieu. L'esprit de sagesse est au milieu de nous. Dieu veut nous rendre sages. Et qui est la sagesse en personne? Mais c'est le Christ Seigneur. Qui est le trône de la sagesse? C'est la Vierge Marie. En demandant ensemble ce grand don pour goûter Dieu, le discerner, don de science, le voir dans les événements, faire la distinction entre ce qui est passager et ce qui est éternel, pouvoir rentrer dans l'intelligence des choses de Dieu, Voilà, il me revêt des vêtements du salut. Il me part de ses bijoux. Demandons ensemble les dons du Saint-Esprit. Et encore une fois, soyons très vigilants pour tout ce qui peut empêcher les dons de l'Esprit d'éclore. Colère, orgueil, luxure, gourmandise, avarice, tristesse, envie. S'il y en a qui veulent s'en rappeler, là, c'est Colgate. Colère, orgueil, luxure, gourmandise, avarice, tristesse, envie. Quand vous brossez les dents le matin, là, pensez. Brossez-vous les dents en disant non, pas ça aujourd'hui, ça va être plutôt les dents du Saint-Esprit. Il faut se donner des trucs pour demeurer dans cet éveil spirituel. Soyez vigilants. Vigilate et orate. Soyons vigilants. Prière, il y a des choses qui veulent rentrer. Et on sait que le diviseur, tout ce qu'il veut, c'est diviser. Non. Quelqu'un vient te voir, « Hey, t'as pas entendu ça? » Non, je ne veux pas l'entendre. Ça, c'est épouvantable comment ça brise notre communauté. La médisance. Le curé d'Ars appelait cela un crime. C'est un meurtre silencieux. C'est une réputation. On se bouffe comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait l'œuvre du diable. Et c'est la pourriture qui entre de l'intérieur et qui brise, qui détruit le corps du Christ. Non. Il faut s'aider mutuellement. Es-tu certain de ça? Non, laisse tomber. Il faut cacher la nudité du pauvre, frères et sœurs. C'est ça que Dieu fait avec nous, recouvrir la nudité du pauvre. Pas là. Regarde, là. Regarde le gras de son jarret. Non, recouvre. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous recouvre, nous l'avons entendu, Il m'a drapé. Il couvre ma nudité. Ézéchiel 16, je t'ai vu, tu étais nu, tu étais dans la boue, tu étais. Et j'ai dit, vis, lève-toi. Je te drape, je t'entoure, je t'enveloppe, je te protège. Nous devrions prendre soin les uns des autres de cette même manière, frères et sœurs. Comme la fiancée qui se pare de bijoux. Parez mon frère et ma sœur des bijoux. Au lieu de commencer à arracher puis picosser. À ce moment-là, nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu, nous sommes dans l'œuvre du diable. Et c'est trop commun. Encore une fois, ce n'est pas de la morale. Il s'agit pour nous d'entrer dans la joie. Tout cela, ce combat, c'est pour entrer dans la joie. Pas simplement pour faire de la vertu, c'est pas ça du tout. Non. Car de même que la terre fait éclore ses germes et qu'un jardin fait germer la semence, ainsi le Seigneur Dieu fait germer la justice et la louange devant toutes les nations. Moi, je pense au chapitre 13 de Matthieu. Une parabole absolument fondamentale dans le Nouveau Testament. C'est peut-être la plus importante de toutes, c'est celle où le semeur sort pour semer. Et là, il y a une terre, ou plutôt il y en a quatre sortes de terres. Il y a la bonne terre, mais il y a aussi la terre ingrate. La terre où le semeur sème, mais les oiseaux viennent, c'est le démon qui vient enlever la parole de Dieu. Je le dis avec tristesse, mais est-il possible qu'après cette retraite, il y en ait qui vont repartir de nos frères, et là, les oiseaux vont arriver, puis on va enlever ça, puis dans 2 mois, ça serait triste, non? Ou les soucis de la vie. Les ronces étouffent la parole. Soyons vigilants. Le Seigneur, il nous voit comme une bonne terre, un jardin, une source scellée. Je te donne le don de l'Esprit, je veux toujours t'irriguer pour que ta terre porte un fruit et un fruit qui demeure. Un jardin fait germer la semence. Dieu pense à notre fécondité tout le temps. Je veux te rendre fécond, féconde. Et je t'envoie la semence par excellence, le Verbe de Dieu, qui vient semer ses paroles de vie et de tendresse dans ton jardin, afin que tu puisses rendre gloire à Dieu par le fruit que tu portes. Je vous ai choisi pour que vous alliez, pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Chapitre 15 de Saint Jean. faire germer la justice et la louange. Très beau ça. L'ajustement, la justice, l'ajustement à Dieu, l'ajustement aux autres, l'ajustement à toi-même. Et là, il surgit de toi un cri de louange pour l'œuvre que Dieu fait en toi. Nous sommes appelés à devenir une Jérusalem, une ville de paix. Dieu vient dans sa ville, dans son jardin, pour unifier, pour y faire la paix. À cause de Sion, à cause de Jérusalem, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je ne tiendrai pas en repos. Celui qui a soif de Dieu ne se tient pas en repos, sinon dans cette soif continuelle du Dieu qui vient. Viens pacifier mon être. Viens, Seigneur Jésus. L'épouse et l'esprit et l'épouse, dit dans l'Apocalypse, c'est la fin du Nouveau Testament. L'esprit et l'épouse disent, viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Si nous pouvions invoquer ce Christ dans toutes les occasions de la journée, très simplement, viens, Seigneur Jésus. Je reconnais que tu veux faire de moi une Jérusalem de paix. Je ne me tairai pas jusqu'à ce que sa justice jaillisse comme une clarté. Un chrétien, il est prêtre, prophète et roi. Il est prophète de cette réalité. Il peut s'accaparer, s'approprier cette parole que je viens de dire. Je ne me tiendrai pas en repos. C'est ça la mission. Je ne me tiendrai pas en repos tant que chacun n'aura pas d'une façon ou d'une autre goûté à cette lumière que j'ai vécue, que j'ai goûtée. Sapere, sapientia, j'ai goûté. On n'est ici plus de la morale, c'est une expérience, une rencontre qui meut mon cœur. Avoir un cœur énamouré, énamouré par cette présence de la tendresse de Dieu. Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. Voilà le rayonnement de l'expérience chrétienne. On ne peut pas être chrétien, on ne peut pas accueillir ce don, on ne peut pas accueillir la joie de Dieu sans être missionnaire, c'est impossible. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Cette lumière, elle n'est pas à être cachée sous le boisseau, mais à être mise sur le lampadaire. Nous allons repartir de cette retraite, mais il faut déjà penser à la mission. La joie, certes, on l'accueille, mais il faut déjà penser qu'on ne va pas ensuite s'en cabaner comme ça. Non. Certains par la parole davantage. La plupart d'entre nous par l'exemple. En faisant la vaisselle, tu peux évangéliser. Tu peux sauver des âmes en sortir du purgatoire. Parce que tu es uni au bien-aimé, tu es ajusté à lui. Moi, je pense toujours à Thérèse d'Enfant Jésus. Extraordinaire. Elle meurt. Ses compagnes, dont une entre autres, dit « Qu'est-ce qu'on va dire d'elle? Elle n'a rien fait. » C'est vrai ce que je vous dis. Elle n'a rien fait, mais qu'est-ce qu'on va dire d'elle? Le feu brûlait en son cœur et elle marchait avec les missionnaires au Tonkin, partout à travers le monde. Elle était au cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, était dans le cœur et donc elle était propulsée partout. Si nous savions le don de Dieu, si nous savions ce que nous portons en dedans, on deviendrait plus audacieux. Ton humble fidélité quotidienne ajustée au bien-aimé porte un fruit de gloire partout sur la planète. Ce n'est pas écrit dans les journaux, ni dans Allopolis, ni dans Hollywood. C'est écrit dans le cœur de Dieu. Moi, j'aimerais bien qu'à la fin de ma vie, je sois écrit dans le cœur de Dieu, puis je dis, bon, voilà, il y a la bonne place, t'es écrit là. Et nous avons dit que nous voulions entrer dans le cœur de Dieu, et le cœur de Dieu en nous, pour que, précisément, nous puissions faire cette expérience de rencontres et d'épousailles. Alors on t'appellera d'un nom nouveau. Cette nouveauté, le mot nouveau, c'est Saint-Irénée qui l'a ramassé. Là. Qu'est-ce que la nouveauté? Eh bien, frères et sœurs, la nouveauté, c'est l'Esprit Saint. C'est le vin des noces. C'est cette joie. Il y a une seule nouveauté. Tout le reste va vers la vétusté, vers ce qui est ancien. Ça ne peut que mourir. Mais il n'y a que l'Esprit éternel de Dieu qui est la nouveauté. On est renouvelé par l'Esprit Saint, rien d'autre. Certes, on peut avoir un bon médecin, un bon régime, certainement qu'on peut corporellement se donner une chance, mais essentiellement, c'est la rencontre avec l'Esprit qui fait la différence. Voilà la nouveauté. Qu'est-ce que la nouveauté, dit Irénée? C'est l'Esprit Saint. Et nous sommes ici pour accueillir cet Esprit. Et j'invoque encore très sainte Mère de Dieu. Sois présente, sois bien présente alors que nous voulons entrer dans cette joie. Sois bien présente à chacun d'entre nous. Nous voulons vivre en ton sein pour accueillir, comme des petits pauvres, le don de l'Esprit. Car tu sais comment nos vases sont fissurés et comment nous laissons passer la grâce, souvent de façon si stupide. Nous te demandons, recouvre-nous. Recouvre-nous, Mère, Mère, notre Mère, pour que nous accueillions cette nouveauté, ce vin des noces. Le vin des noces de Cana, c'est l'Esprit Saint. Et le vin qui est sorti du cœur transpercé du Christ, c'est l'Esprit Saint. Nous avons besoin, un urgent besoin de vivre dans l'Esprit. Voilà la nouveauté, le nom nouveau, ton nom de grâce. Et il se peut que tu aies des lumières sur ton nom de grâce pendant cette retraite. Tu es attiré par tel ou tel mystère, telle parole qui te revient, tel mot qui te revient, telle interpellation qui est récurrente. Soyons attentifs. Dieu veut nous faire entrer chez nous. Tu as une place unique, personne d'autre peut la prendre. Une place unique à recevoir. Tu seras une couronne de splendeur dans la main du Seigneur, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. Voilà la source de toute tristesse. Depuis Adam, depuis le péché originel, voilà la source de toute détresse et tristesse. Être séparé de Dieu, éloigné de lui, délaissé. J'ai pas été choisi. Combien m'ont dit ça, moi? Je ne me sens pas choisi, je ne me sens pas élu, je suis délaissé. C'est le drame de nos vies, frères et sœurs, nous en souffrons tous d'une façon ou d'une autre. Je suis un bijou non réclamé. Délaissé, oublié. Le Seigneur connaît, à travers le prophète, le Seigneur connaît notre cœur. Il sait très bien qu'est-ce qu'il y a en moi. Je me sens délaissé. Eh bien, dit le Seigneur, on ne te dira plus délaissé. Et de ta terre, on ne dira plus désolation. C'est très frappant dans le second Isaïe, Isaïe 40 à 55, comment est-ce que le peuple de Dieu est souvent montré comme une terre aride, craquelée, sans eau. Terre aride, altérée, sans eau, comme dit le psaume 62. Et Dieu vient comme une rosée. Il vient comme une pluie généreuse. Il vient imprégner la toison, il vient imprégner la terre, il vient imprégner le terrestre, afin que de la désolation, je passe à la consolation. Qu'est-ce que la consolation? Simplement épidermique, hein? Consoler, consoler, belle consolation. Un prix de consolation. C'est même l'expression, un prix de consolation. Qu'est-ce qu'il y a dans ce mot « cum solus » ? La consolation, c'est « cum solus », celui qui est avec celui qui est seul, avec le seul. Nous sommes isolés depuis le péché. Nous vivions ce drame de l'enfermement. Nous avons soif de la vraie relation, des épousailles. Et c'est ce qui fait notre désolation, on est désolé. Où est le Seigneur? La désolation spirituelle. Où est le Seigneur? Où est le Seigneur? Il vient nous consoler. Il vient dire, je suis avec toi. Tu n'es plus seul, je suis avec toi. Et Jésus dit, demeurez en mon amour. Il veut toujours demeurer. demeurer. On ne te dira plus, ta terre ne sera plus désolation, mais mon plaisir est en elle. Oh, mot important. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis, littéralement, tout mon plaisir. On entend ça au baptême, à la transfiguration. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, en qui j'ai mis toute ma complaisance, eudokia, toute ma complaisance. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que nous puissions, il puisse trouver en nous sa complaisance. Je voudrais me complaire en toi. Je voudrais que tu sois ce lieu où je puisse demeurer. Et je vais te donner tout ce qu'il faut pour que tu puisses demeurer, être à demeure en toi. Je te donne mon fils, qui est la terre sainte dans laquelle tu vas t'enraciner pour que, précisément, tu sois déposé. Que je sois déposé en toi et que tu sois déposé en moi. Nous pouvons vivre des moments de désolation, mais qui sont des appels du cœur profond. Je te désire. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair. Terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. C'est le psaume le plus mystique, peut-être, de tout psautier. Ton amour vaut mieux que la vie. La vie, c'était la bénédiction suprême. Mais là, c'est ton amour qui vaut mieux que la vie. Je suis consolé par cet amour qui sans cesse jaillit comme une source intérieurement et qui témoigne « Abba, Père, tu es le Fils bien-aimé. Tu es dans la complaisance du Père. » Dieu veut se complaire en nous. Et nous faisons une retraite pour le laisser se complaire en nous, pour lui permettre de se complaire en nous, pour faire de l'espace, un nettoyage, une purification. Enlever toutes ces roches, ça va être progressif, on va continuer, c'est pas fait une fois pour toutes, nous savons bien. Mon plaisir est en elle, et ta terre, épousée. Épouse. Épouse. Homme ou femme, dit Jean-Paul II dans Mulieris Dignitatem, homme ou femme, nous sommes tous et toutes des épouses. Chacun, nous sommes en tant que créature, épouse appelée à accueillir l'époux. C'est notre destinée, c'est ce pourquoi nous avons été créés, c'est ce mystère, ce grand mystère que nous voyons lorsque nous voyons un homme et une femme unis par les liens sacrés du mariage. C'est le grand mystère qui se modèle sur le grand mystère dont il est question dans Éphésiens, l'union du Christ et de l'Église. C'est le grand mystère. C'est notre mystère. C'est le mystère du mariage, mais c'est le mariage, ce sont les noces spirituelles, le mystère des noces spirituelles. Nous sommes tous appelés à cela, personne n'est exclu de cela, et tout notre chemin, tout notre désir profond, c'est d'aspirer et d'entrer dans ces épousailles. Et c'est explicite aujourd'hui. Ta terre sera épousée. Ce n'est plus la désolation, c'est la rencontre. Ce sont les épousailles. Car le Seigneur trouvera en toi son plaisir. Encore une on répète. Dieu veut se faire entendre par notre surdité congénitale. Je veux que tu sois mon plaisir. Ta terre sera épousée, encore une fois. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Ton bâtisseur, ton constructeur, celui qui te bâtit une maison, c'est ton époux. Imaginez une maison. Comment pouvez-vous imaginer une maison sans un époux et une épouse? Dans le plan de Dieu, la maison, l'époux, l'épouse et la fécondité. Et de même, il bâtit une maison afin que l'époux qu'il est et l'épouse que nous sommes puissent vivre cette communion mutuelle. Et où est-ce que ça se conforte? Ou est-ce que ça ne cesse de s'approfondir? L'autel. C'est extraordinaire. L'autel. Le lit nuptial.
Le banquet nuptial. Le banquet des noces. La fine fleur de la farine. Le corps de ton Dieu. Ils ne feront qu'une seule chair. C'est clair, c'est explicite. Plus on va redécouvrir l'Eucharistie dans cette lumière, plus Dieu va trouver son plaisir en nous. Devenons un peuple eucharistique. C'est ce qui nous a été lancé comme appel de l'Esprit-Saint 2008 lors du Congrès international. 400 ans après notre fondation. Sois refondé dans l'Eucharistie. Si tu retrouves l'Eucharistie, si tu retrouves le banquet nuptial, si tu retrouves le sens des épousailles, tu vas devenir un peuple renouvelé. Éloigne-toi de l'Eucharistie. Non. Reviens. Reviens à ton premier amour. Parce que l'Eucharistie, c'est la représentation, l'actualisation du mystère de la croix, de l'époux qui ouvre son cœur à l'épouse. L'épouse naît de son cœur transpercé. C'est ce qui se passe à chaque Eucharistie. Nous sommes graciés dans et par l'Eucharistie. Éloigne-toi de là, c'est la sécheresse et la désolation. C'est un cri eucharistique que je nous lance. Et prions pour qu'il y ait des prêtres. L'homme de l'Eucharistie, c'est le prêtre. En retrouvant cette source eucharistique, nous retrouvons la complaisance de Dieu. Ce qui est fascinant à Medjugorje, dans certains des sanctuaires, c'est cette affluence eucharistique. Moi, j'ai donné la communion à Medjugorje, quasiment mal au bras, là, mais il y a derrière cela une soif, une faim eucharistique. Extraordinaire. On a faim de Dieu. Avons-nous faim de Dieu? De quoi on se nourrit? Qu'est-ce qu'on boit? Dieu n'accuse pas. Non. Il vient avec sa joie. Mais dit, si tu veux que cette joie continue et que cette joie demeure, Jésus, que ma joie demeure, c'est l'Eucharistie. On n'en sortira pas. Dieu se donne. C'est le rocher que je frappe. En quelque sorte, par la consécration, il en sort une source d'eau vive, comme Moïse dans l'Ancien Testament. Extraordinaire ce qui sort de cet autel qui est frappé par la grâce de Dieu. Les sources, les fleuves d'eau vive. Et là, les brebis sont nourries, les cœurs sont nourris, et l'être humain renouvelé. Tout se ramasse, et là on pourrait prendre toute la retraite, là. Tout se ramasse, parole, la deuxième journée, et noces, la joie, parole, noces, joie, tourne-toi vers l'autel. Tu peux sans cesse puiser à ses dons, à ce lieu. À partir de la grâce nuptiale première qui a été le baptême. Mais l'amour est scellé dans et par l'Eucharistie. C'est le corps de Dieu. Ce sont les épousailles divines. C'est le lit nuptial. C'est le renouvellement continu de l'être humain. Et ça se poursuit dans l'Eucharistie adorée. Eucharistie célébrée, communiée, adorée. Notre vie devient eucharistique. Et regarde Marie, elle est la femme eucharistique, comme en parlait le cardinal Ouellet dans ce très beau texte théologique, certes, mais très beau texte qu'il avait pondu lors en 2008. Retrouver le sens eucharistique. Et ainsi,
Dieu trouve son plaisir en nous. Devenons un peuple eucharistique. Frères et sœurs, nous avons fait un parcours ensemble. Et nous voulons, n'est-ce pas, que cette parole s'incarne en nous. Nous sentons notre pauvreté et une fois de plus, nous nous tournons vers Marie, la mère, la femme eucharistique, pour devenir de plus en plus des êtres à l'image et à la ressemblance de Dieu. Seigneur Jésus, nous voulons nous abandonner à toi. Nous voulons continuer cette journée dans l'action de grâce, dans la prière, dans l'accueil mutuel. Nous reconnaître comme des dons, comme des portions de ton corps. Et continuer à vivre l'esprit de foi et partage pour que nous puissions, ce soir, lors de l'Eucharistie, exulter de joie. Je suis plein d'allégresse dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car aujourd'hui, il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a drapé dans un manteau de justice comme l'époux qui se coiffe d'un diadème, comme la fiancée qui se pare de ses bijoux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.